Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre moment de partage, ce moment d'écoute qui est votre libre antenne. J'espère que vous avez passé un agréable week-end aux côtés de Sana et que vous vous apprêtez à vous installer confortablement chez vous ou que dans votre voiture, vous êtes bientôt arrivé chez vous. En tout cas, comme vous le savez, comme tous les soirs, Europe 1 vous offre ce moment unique d'écoute, de partage. Et c'est votre moment, chers amis. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de nous raconter ce qui vous passe par la tête, ce qui gargouille dans votre ventre, eh bien, vous composez le 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Vous composez le 7-39-21 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules suivi d'un espace pour vos SMS. Et puis, Natacha et Florian attendent vos messages, vos mails pour préparer votre intervention à l'antenne. Si toutefois vous en avez besoin, en mail, lalibreantenne@europe1.fr ou sur notre groupe de parole Facebook, Olivier Delacroix, Sabine Marin, La Libre Antenne. Voilà, nous attendons vos appels. Vous pouvez nous envoyer vos SMS et surtout signez-les si vous désirez que je les lise à l'antenne. Voilà, vous êtes parfaitement au courant de tout. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Cette Libre Antenne du lundi, c'est parti.
Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Ossine au 39-21. Bonsoir Ossine.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Ossine?
De Sens, en Yonne.
D'accord. Vous avez quel âge?
45 ans.
45 ans. D'accord. Alors dites-moi ce qui vous amène Ossine.
Bon, bah, écoutez, je voulais porter à la connaissance du public, des auditeurs aussi, bah, le sort de certains papas qui vivent un peu l'enfer. Et qui sont séparés tout simplement de leur progéniture depuis plusieurs mois, pour certains plusieurs années, sans aucune justification, si ce n'est, un conflit, voilà, conflit parental qui se cristallise autour de l'enfant et qui empêche un parent de voir l'autre, de voir son enfant, voilà.
Dans quelles conditions vous avez été privé de votre petit garçon, petite fille, plusieurs enfants, un enfant?
Alors, c'est un enfant, il a 5 ans, un petit garçon.
Ouais.
Il a 5 ans. Bah, ça s'est fait, c'est assez, somme toute assez récent, puisque la séparation a eu lieu quand l'enfant a eu 2 ans.
Ouais.
Et grâce, en fait, aux juges, aux différents juges aux affaires familiales, j'ai enfin pu revoir cet enfant, puisque la maman s'est acharnée, évidemment, à ne plus à couper les liens, tout simplement couper les liens entre l'enfant et le père.
Comment s'y est-elle prise? Racontez-moi aussi, en fait.
J'ai envie de dire aussi de manière assez somme toute classique, c'est-à-dire on tombe dans le schéma où on dépose des plaintes. On commence par déposer quelques mains courantes, évidemment, puis on va déposer une plainte pour violence en général, puisque c'est la seule plainte en réalité qui peut justifier l'éloignement géographique volontaire en général. Bon, ce que moi, la juge a qualifié de rapt. Donc, c'est quelque chose que j'ai vécu comme un enlèvement, un rapt d'enfant. Et la seule solution pour ces mamans, enfin, je ne vais pas essentialiser, je vais pas dire ces mamans, je vais dire pour la maman en l'occurrence, c'est tout simplement d'aller déposer des plaintes pour violence, voilà. Et évidemment, ces plaintes, à 99% des cas, enfin, pour moi, c'était 100% des cas, sont toutes classées ensuite, hein, après une enquête, et puis après une enquête fouillée en général, vous savez, une audition qui dure plusieurs heures. On est cuisiné, ou les policiers aussi travaillent à charge, mais surtout à décharge. Mmh. Et la vérité, entre guillemets, jaillit, et on s'aperçoit que tout ça n'est fondé sur rien, aucun fait tangible, que tout ça n'est que des esbroufes visant à gagner du temps, la plupart du temps, pour les moments. Parce qu'en réalité, en déposant une plainte pour violence, ça lui a permis de s'enfuir à l'autre bout de la France, et puis tout simplement de cristalliser une situation de fait, acquise en fraude à la loi, quoi.
Et lorsque vous dites que vous avez pu revoir votre fils grâce à un juge des affaires familiales, comment ça s'est passé en fait pour vous, là, cette situation-là précise?
Il y a eu plusieurs audiences, à vrai dire. Il y a eu plusieurs audiences. Donc la première audience s'est passée à Paris, puisque l'enfant est né à Paris et que nous vivions à Paris. Et ben, la juge des affaires familiales, comme je vous le dis, ayant compris en réalité les contours un petit peu de cette histoire, et ben, tout simplement décidé de mettre en place une garde alternée pour un enfant qui venait à peine d'avoir 2 ans, enfin non, qui allait vers ses 2 ans, donc il y avait moins de 2 ans à l'époque. Une garde alternée avec 500 km de distance entre les deux domiciles, avec tous les déplacements et les frais à la charge de la maman, puisque évidemment, elle avait qualifié son acte de rapt, il fallait qu'on en assume aussi un minimum les conséquences. Alors voilà, c'était une situation, j'imagine, qui était insupportable pour la maman de devoir maintenir des liens entre l'enfant et le père, et puis surtout d'avoir effectué tous ces déplacements. Et donc, sont suivies des plaintes, une litanie en fait de plaintes. On en a plus de 25 ou 26 qui sont toutes classées sans suite. Hein. Et puis, pour diverses choses variées, comme appel malveillant, parce que tout simplement j'essaie de joindre mon enfant, ou des violences, alors des violences en plein public, devant les policiers, sous les caméras, etc. etc. Bon, tout ça est toujours classé sans suite, ce qui fait qu'en réalité, à chaque fois qu'il y a une nouvelle session juge aux affaires familiales, bon ben voilà, les juges ont peut-être aussi un peu l'habitude de ces stratagèmes-là. Et puis bon ben, et dès lors établissent un certain équilibre.
Vous avez, mais bon, vous avez eu la chance, je pense, hein, aussi, il faut que vous preniez aussi conscience que vous avez eu la chance de tomber sur une juge qui ne s'est pas laissée mener par le bout du nez, parce que non, tous les juges aux affaires familiales n'ont pas.
Oui, tout à fait, exactement. Je vais vous dire pour l'interview qu'on va avoir ensemble, pour l'échange qu'on va avoir ensemble, je vais vraiment parler pour moi. Parce qu'en réalité, il y a autant de cas que de papas différents. Et j'ai envie de vous dire, moi je sais que la juge à Paris en question, c'est une juge hyper expérimentée. Hein, c'était sa dernière affaire, je crois, d'ailleurs. Elle est à la retraite après, vous voyez. Et donc, c'est vrai que c'est une décision que c'était rarement vue. J'ai envie de dire, si on regarde la jurisprudence, on accorde très rarement des gardes alternées à la semaine avec 500 km de différence, parce que c'est extrêmement épuisant pour l'enfant.
C'est 500, j'ai pas très bien compris. C'est 500 km, c'est ça ?
Oui, 500 km de différence entre les deux domiciles parentaux.
Pourquoi est-elle partie à l'autre bout de la France ? C'est parce qu'elle a de la famille ou elle est partie ?
Oui, tout à fait.
D'accord.
Oui, c'est-à-dire qu'elle elle était venue à Paris.
Pour vous ?
Pour moi, enfin oui, et puis l'enfant est arrivé, et par la suite, n'étant plus... C'est vrai que le couple battait de l'aile, donc voilà, dès lors je pensais vraiment qu'on allait se séparer en bonne intelligence, vous voyez, c'est-à-dire quand même privilégier l'intérêt de cet enfant. Elle voyait très bien que j'étais un papa très investi, et que cet enfant s'était énormément attaché à moi, au même titre qu'à la maman. Je ne fais pas du tout de hiérarchie là-dessus, c'est évident. Mais je pensais qu'en tant que maman, voilà, elle offrirait quand même à son fils la possibilité d'avoir des relations avec son papa, continue et sur le même mode qu'avant.
Ça, c'est... En réalité,
elle n'entendait pas de cette oreille.
Elle s'est mal passée, cette séparation de son côté.
Oui. Ouais. Enfin, oui, force est de constater qu'en effet, elle s'est mal passée. Elle aurait pu très bien se passer. C'est juste que j'ai découvert au fil du temps et au fur et à mesure des choses, des mains courantes, des plaintes sur des choses, enfin des allégations totalement grotesques. Et en fait, le but, c'était de l'éloignement. Et c'est un stratagème qui avait été mis en place depuis plusieurs mois. Et là, pour le coup, je ne veux pas parler de mon cas uniquement. J'ai envie de dire, c'est un peu une généralité. Moi, je me suis occupé aussi de beaucoup de papas à travers des associations, des groupes d'aide sur WhatsApp, etc. Et c'est somme toute assez commun, en fait. Les mamans agissent souvent de cette manière-là, c'est-à-dire des plaintes. On éloigne l'enfant du papa,
Je vous arrête aussi. Il y a aussi des pères qui font exactement la même chose. Et je ne crois pas qu'il y ait un sexe l'autre qui soit plus déterminé dans ce type de magouille. Vous voyez, c'est vraiment...
Je ne socialise pas du tout, c'est pareil. Je veux dire, vous savez, j'ai souvent entendu dire les juges d'affaires familiales sont des femmes, alors elles sont profanes. Non, c'est faux. C'est ce que je dis toujours à ces personnes-là. Mais vous savez, la juge d'affaires familiales qui m'a rendu mon enfant était une femme, elle m'a rendu dans des conditions dignes. Donc on ne peut pas dire que les juges sont comme ça, ou que les mamans sont comme ça, ou que les papas sont comme ça. Loin de moi l'idée de vouloir essentialiser, c'est pas du tout le le fond de ma pensée. En fait.
Alors, on va marquer une légère pause, si vous le voulez bien, Houssine, parce que je lis que vous n'avez pas vu votre fils depuis le mois de juillet. C'est ce qui a marqué sur votre fiche et vous allez m'expliquer tout ça après la pause, d'accord ?
D'accord.
À tout de suite.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
22h43, vous êtes bien sur Europe 1 et oui, c'est votre libre antenne qui recommence, Agnès. Merci pour votre message au 739-21. Nous sommes avec Houssine, nous parlons avec Houssine de sa séparation compliquée avec un enfant au milieu et puis comme nous l'entendons souvent sur cette antenne, une maman qui a déposé des plaintes, qui est partie avec son enfant à 500 km. Et bien évidemment, vous le savez, toutes et tous qui nous écoutaient, partir avec son enfant à des kilomètres sans que le père ou la mère soient d'accord avec cette décision, ça s'appelle un enlèvement parental et ça peut coûter très cher. D'ailleurs, en fait, ça ne semble pas lui avoir coûté cher aussi à votre ex-femme ou ex-compagne, puisque je lis donc que votre fils, eh bien, vous ne l'avez pas vu depuis le mois de juillet. Comment se fait-il ?
Bah, écoutez, tout simplement parce que il a estimé que c'était pas utile et que Noé, voilà. Moi-même, je me pose encore la question. Je ne comprends pas. Il y a non-représentation d'enfants sur non-représentation d'enfants. Voilà, j'arrive à Strasbourg pour récupérer mon fils, il n'y a rien. Je passe au commissariat, j'amène les décisions de justice qui justifient que je sois avec mon enfant le jour J. La police ne peut que constater qu'en effet, la décision de justice s'applique. Et que bah, la dernière fois, par exemple, là, pour les vacances de la Toussaint, ils ont quand même daigné de passer un appel, ce qui est assez rare, hein, parce que c'est pas non plus leur rôle particulier, et ils ont quand même passé un petit coup de fil en disant « Madame, on prend une petite piqûre de rappel, vous savez qu'il y a l'édition de justice qui s'applique. » Et bah, refus quand même de la maman. La seule solution qui reste au papa, c'est tout simplement de déposer une plainte. Voilà. Déposer une plainte qui sera traitée à des délais évidemment assez longs, hein, parce que vous savez, c'est comme ça, il y a tellement de plaintes et les moyens de la justice sont tels que bah, les délais sont longs. Oui. C'est extrêmement long. Oui. En fait, le temps de la justice, c'est pas le temps des sentiments,
non.
C'est pas le temps de
l'humain. Il est certain que vous avez raison de le souligner, le temps de la justice n'est pas celui des citoyens et des justiciables, mais vous avez tout de même conscience que votre ex-compagne eh bien, elle risque de perdre la garde intégrale de son enfant parce que une non-présentation d'enfant, c'est grave. En tout cas,
c'est
la justice ne rigole pas trop avec ça. J'ai l'impression. On a eu une maman, nous, sur cette antenne, qui a pris de la prison pour ça. Et pourtant, avec un dossier plus épineux que le vôtre, puisqu'il y avait un dossier d'agression sexuelle, alors pas monté de manière fortuite par la mère, hein, mais avec plusieurs femmes qui accusaient l'homme. Et puis, bah, malgré tout, c'était terrible, hein, mais malgré tout, cette femme, elle avait gardé son enfant, cette petite fille qui ne voulait plus retourner chez son père, et elle a été condamnée. Donc du coup, on peut penser que la justice prend très au sérieux cette non-présentation d'enfant. Qu'en pensez-vous ? Vous n'avez pas l'air persuadé de ça.
Écoutez, non, moi je vais encore parler pour moi, parce que je ne peux pas parler pour les autres papas. Les diverses non-représentations d'enfants en réalité, qui ont eu auparavant ont toujours été, en fait, entre guillemets, l'action publique a été stoppée par un passage devant le juge aux affaires familiales. Ce qui fait qu'en réalité, le juge aux affaires familiales, prenant une décision qui a évidemment dégoûté la maman de ses demandes, je retrouvais quand même mon enfant. Donc voilà. Et on disait, bon, on passe ça par perte et profit. Voilà, vous avez récupéré votre enfant. J'ai même eu l'occasion d'une audience. J'ai même pu rattraper le temps qui m'avait été enlevé par la maman. Donc, vous voyez, quelque part, tant mieux. Moi, mon but, c'est pas du tout. J'attends rien du pénal envers la maman. Le but n'étant pas d'attiser un conflit du tout. Vous voyez, moi, l'idée, c'est de passer du temps avec mon enfant. tout simplement, la manière la plus simple possible et la plus digne possible, en fait. Et il se trouve que là, depuis le 15 juillet, en fait, non, c'est plus possible, mais en effet, des plaintes ont été déposées. En parallèle, c'est vrai qu'il y a un tas de plaintes qui ont été déposées par la maman et qui ont été instruites, donc, par la police, en audition. Et ça suit son cours, mais comme je vous le disais, c'est long. Et c'est vrai qu'un papa qui ne voit pas son enfant pour les vacances de la Toussaint, par exemple, alors qu'il a son anniversaire à souhaiter et que son fils lui a préparé une surprise, eh ben, de ne pas le voir, c'est assez frustrant, c'est même traumatisant par moments, quoi. Mais je ne doute pas évidemment que la justice fasse son chemin et que la maman risque en fait une condamnation.
Tant les décisions parfois de la justice familiale nous paraissent ici curieuses pour certaines d'entre elles, tant oui. Une garde alternée de prononcés par une juge, une non-présentation d'enfants présente quelques risques pour
cette mère. Mais pour moi, en l'occurrence, on n'est plus du tout en garde alternée, parce que vous imaginez bien que 500 km, la garde alternée n'est plus possible, l'enfant rentre à l'école, donc il y a une autre décision de justice, et même deux qui se sont
télescopés.
Ils sont télescopés. En fait, moi, j'ai eu un rythme. Le juge des affaires familiales, d'ailleurs, l'avant-dernière décision, ça a été tout simplement, on arrive à un compromis que j'estimais être honorable, et le juge m'a suivi aussi dans ma proposition, qui était tout simplement, d'éviter d'attiser les conflits, même si j'étais fondé en droit à demander la résidence de l'enfant, j'ai dit, on va laisser la résidence de l'enfant auprès de la maman, mais en revanche, monsieur le juge, je voudrais un temps digne, pas des conflits. Donc, il m'avait donné toutes les vacances, les petites vacances scolaires, et la moitié des vacances d'été,
des week-ends. Normal,
je suis juste mettre quand même la base pour pouvoir maintenir un lien avec l'enfant, c'est quand même voilà. Mais ça, c'est une décision qu'elle n'a pas pu supporter. Devoir se séparer de son enfant plus de quelques jours était pour elle une souffrance ultime. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au prononcé de la décision, dans la foulée, en moins d'une semaine, il y a eu déjà un appel de former, donc elle a fait appel de la décision, elle a interjeté appel. En même temps, elle a écrit une lettre à la juge des enfants. Alors là, pour le coup, la lettre, un tissu de mensonges, c'est effrayant de lire cette lettre. Mais pour autant, elle a justifié quand même la mise en place d'une assistance éducative en milieu ouvert. Qui a donc débuté il y a un an et qui ne va pas donner grand-chose. On s'est retrouvé devant la juge des enfants là, le 6 octobre dernier. À l'issue de cette audience, clairement, la juge a demandé à la maman, est-ce que vous êtes d'accord pour que l'enfant voit son papa dans les jours qui suivent? Ça fait quand même longtemps qu'il ne l'a pas vu, chose à laquelle elle a répondu par l'affirmative. Donc vous voyez, ça m'a fait extrêmement plaisir. Devant la juge, oui, je veux que mon fils voit son père, c'est normal.
Là, en octobre dernier, là?
Ouais, le 6 octobre, on s'est trouvé devant le juge des enfants. Et la juge lui a dit, madame, est-ce que vous voulez quand même que cet enfant voit son père? Il est venu jusqu'à Strasbourg. Oui, je veux qu'il ait un papa, je veux qu'il le voit.
Et
le lendemain, j'ai proposé tout simplement une petite entrevue par un petit mail, enfin un petit SMS vraiment très 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 gentil, très court aussi. Je suis là. Noé fait son activité le mercredi après-midi. Est-ce que tu accepterais que je puisse l'étreindre quelques minutes et échanger avec lui? Réponse, non.
Qu'est-ce qu'elle a contre vous, cette femme? Parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose aussi.
Je sais pas. Je me doute. Non, je sais pas très honnêtement. Je n'oserais pas me prononcer sur ce qu'elle pense. Je n'ai plus de contact avec elle depuis 2017. Les seuls contacts qu'on a, c'est par l'intermédiaire d'avocats. Donc inutile de vous dire que tout ça est teinté d'intérêt, tout ça est teinté de mensonges, tout ça est teinté de. Je n'arrive pas à savoir ce qu'elle pense au plus profond d'elle. En revanche, les faits parlent pour eux-mêmes. Je veux dire, je sais que c'est une maman fusionnelle pathologique. C'est la juge d'ailleurs qui lui a dit ça en audience le 6 octobre dernier, qui lui a dit, madame, vous êtes fusionnelle pathologique, c'est pas bon, c'est délétère pour un enfant et pour la construction de sa personnalité. Apprenez, et d'ailleurs l'AEMO, vous savez, l'AEMO c'est l'assistance éducative en milieu ouvert. Le jugement de l'AEMO pointe quatre buts en fait, et puis parmi les quatre buts, il y a notamment le travail de la relation mère-enfant. Et je pense qu'il y a, ça a été corroboré par des pédopsies, par la psy que j'ai actionnée à un moment où c'était compliqué, vous voyez, parce qu'à l'âge de 2 ans, je n'avais toujours pas le droit de raconter une histoire à mon enfant le soir, prétextant l'allaitement, vous voyez, l'allaitement qui durait de 8h à 10h30, voire 11h des fois.
Compliqué.
Et je lui ai supplié des fois de me laisser une demi-heure le soir raconter à une enfant mon histoire.
J'ai une question, est-ce que la naissance de cet enfant, à partir du moment où cet enfant est né, ça paraît évident que vous parlez de d'attachement pathologique et de relations fusionnelles,
hein.
C'est que dans tout ça, vous n'aviez plus votre place. Est-ce que l'échec de votre couple, il n'est pas venu à partir du moment où cet enfant est arrivé ?
Bien sûr, bien sûr. Je pense que ça a été même un élément déclencheur. Ça a été comme une étincelle, en réalité, la naissance de cet enfant. J'ai évidemment vu et ressenti comme un détachement total. Vous savez, avant, on sortait beaucoup, on allait au cinéma, on allait au restaurant, etc. Et dès la naissance de l'enfant, jusqu'à ses 2 ans, pas une seule sortie au cinéma, pas un seul restaurant solo, pas une seule entrevue en solo. Pourtant, Dieu sait qu'autour de moi, j'avais des gens qui étaient, voilà, on te garde l'enfant, j'ai fait du babysitting, ma nièce, enfin, mes sœurs, etc., étaient là, mais elles ne voulaient pas se détacher de son enfant. Et la phrase qui revenait continuellement et en boucle, c'est « je ne pars pas sans mon fils, je ne pars pas sans Noé, je ne sors pas sans Noé ». J'étais là, mais il a 2 ans maintenant, on va peut-être pouvoir commencer. Puis moi-même, je vais peut-être pouvoir m'investir un peu plus auprès de mon enfant. Pouvoir le présenter à mes enfants, à mes copains par exemple, mes amis de fac, mes amis de 20 ans, de 25
bien
ans,
sûr,
qui au bout d'un an et demi n'avaient toujours pas vu mon fils, vous voyez. C'était, et en fait moi j'ai, bon, évidemment j'étais angoissé par cette situation, j'ai laissé faire pendant un an, à peu près un an et demi, et puis au bout d'un an et demi je me disais c'est plus possible, et c'est là où j'ai actionné les psychologues, les pédopsies, en leur demandant de l'aide en réalité. Allô?
Oui, oui, je suis là.
D'accord, je vous entendais plus.
Non,
et j'ai actionné Pédopsy, alors là, c'était CMP Brantôme à Paris, la psy de la crèche, la psy de la PMI, qui, évidemment, nous ont rencontrés. Donc, l'enfant seul, nous deux, chacun de notre côté. Et le verdict était sans appel. C'était oui, en effet, la maman est dans une fusion qui pourrait nuire, limite, à la construction de sa personnalité. Donc, on va mettre en place, par exemple, des protocoles. Faire en sorte que le soir, vous puissiez, par exemple, lui raconter une histoire, que vous puissiez... Non, non. Et c'est à ce moment-là qu'elle a fui, prétextant évidemment ces fameuses violences, vous voyez, qu'elles sont tombées comme par hasard à pic. Mais bon, en tout cas, là, pour des histoires de violence, c'est tombé en un quart d'heure, hein, c'est tombé à l'eau en un quart d'heure. Je me suis retrouvé au commissariat, donc en audition, et puis l'OPJ, qui l'a suivi depuis 6 mois, m'a dit, au bout d'un quart d'heure, bon, écoutez, c'est bon, si vous voyez, vous reprenez vos affaires, vous sortez, je vous prends ni photo ni empreinte, c'est cousu de fil blanc ce truc, au revoir, elle s'est bien moquée de moi. Voilà. Et en confrontation, elle s'est pris une volée de bois vert, du reste. Hein. C'est, je veux dire, même à l'audience JAF, parce que c'est curieux, c'est, j'ai eu l'audience JAF le matin et la confrontation police l'après-midi. Et je lui ai même tendu la main le matin à l'audience JAF parce qu'elle se prenait pareil, une volée de bois vert, quoi. La juge lui était, entre guillemets, rentrée dedans et j'ai tendu la main en disant, bah, écoutez, voilà, pour jeter les bases d'un dialogue nouveau et surtout d'une relation nouvelle et faire perdurer le couple parental qui doit perdurer, quoi qu'il en soit. Le couple conjugal étant définitivement, j'imagine, mort, on va quand même faire perdurer ce couple parental parce qu'il y a un enfant entre nous. Et donc j'ai tendu la main en audience. J'ai dit, bah, voilà, je sais que madame n'arrivera pas matériellement à effectuer tous les déplacements à la semaine, les 1000 km par semaine qu'elle devait faire. Et j'ai dit à la juge, bah, écoutez, madame, voilà, garde alternée, c'est parfait, c'est une base égalitaire. Et ben moi, je vais tendre la main et dire que je vais effectuer un trajet sur 2. Voilà. Ben, j'ai tendu la main et en fait, on m'a coupé le bras. C'est exactement ça l'image.
Oui,
et
oui,
depuis,
oui, je pense,
depuis, j'ai plus de bras, quoi. Voilà. Depuis, j'ai plus de bras et à chaque fois que j'ai tendu la main, j'ai pas pu. Vous savez, par exemple, de toutes ces plaintes, je n'ai pas encore déposé moi de plainte en retour parce que je me dis que c'est aussi quelque part réactiver le conflit. Mais d'une autre part, je me suis coupé même limite d'une psychologue qui m'a dit, moi, je refuse maintenant de continuer à travailler avec vous parce que vous ne m'écoutez pas. Vous ne faites pas ce que je vous dis de faire. Et sa préconisation à elle, c'était, mais allez vite déposer une plainte. Il faut qu'une autorité supérieure lui fasse comprendre qu'elle ne peut pas dire, faire n'importe quoi et que cet enfant en subit des conséquences. Voilà, bon, le souci, c'est que si moi je vais déposer une plainte, eh ben, on repart dans la litanie des plaintes, etc. Et ça réattise le conflit que moi je cherche absolument à éteindre. Parce que je n'ai aucune raison et je n'ai aucun intérêt à faire perdurer ce conflit. Moi, j'ai tout intérêt à ce que le conflit cesse.
Moi, oui, c'est ce que j'allais vous dire en guise de conclusion. C'est que vraiment, sur cette antenne, souvent, on évoque ces conflits entre parents. On évoque ces situations explosives où l'enfant se retrouve malheureusement, hein, pour lui en premier, au cœur de ces conflits. Mais je pense quand même aussi qu'avec les décisions de justice qui ont été prononcées, avec les avertissements qu'elle a reçus, elle joue vraiment avec le feu. Et je pense que vous devez faire preuve d'une patience, encore, d'une grande patience.
Ce
oui, oui, c'est terrible, mais le temps de la justice, vous me l'avez dit vous-même, donc prenez votre patience U égale à l'amour que vous portez à cet enfant, et je vous souhaite vraiment plein de courage. N'hésitez pas à me tenir au courant, en tout cas, d'accord ?
Avec plaisir, Olivier.
Bien, à bientôt aussi. Vraiment, n'hésitez pas, vous savez où me trouver, ok ?
Très bien,
bonsoir.
Pas de soucis.
Au revoir.
À vous aussi, au revoir.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute.